Faut dire qu'ici, moi je connais pas tellement les génératifs français, je connais plutôt les Américains et moi je suis allé à plusieurs présentations puis j'y comprends rien. Alors je me dis bon, alors je renonce. Je trouve que leur générativisme ici souvent consiste à prouver que la théorie est bonne. Moi ça m'intéresse pas du tout de savoir que la théorie est bonne. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si c'est la théorie explique le langage. Et souvent, tu vois, des exposés, on prouve bien que X égale Z, donc truc avait raison. Oui, mais je m'en fiche qu'il raisonne pas. Moi je veux savoir, est-ce qu'il m'explique la langue? C'est tout ce qui m'intéresse comme linguiste venant de l'extérieur de cette théorie. Alors quand j'écoute les disciples de Martinet, de temps à autre, j'ai des réponses, je peux poser des questions. Mais quand j'écoute les génératifs, je ne peux pas poser de questions parce que j'ai rien à dire.
C'est
et
devenu
dans le fond,
très
ça m'intéresse pas beaucoup.
C'est devenu très technique.
Très technique, mais aussi ce qu'ils veulent prouver, le sujet, le point là, qu'ils veulent prouver, m'intéresse pas au départ. Je me dis, mais pourquoi ils veulent prouver que telle a raison, que telle partie de il aurait dû ajouter ceci ou pas, mais je ne suis pas. Je ne suis pas parce que je me dis, ça me touche pas. Ça m'aide pas en rien et ça. On fera une fois une statue à ces grands hommes qui ont créé cette théorie, mais je veux dire, moi j'aimerais mieux voir comment ça m'explique. Voyez-vous? Alors il y en a par contre des générativistes qui sont plus faciles à comprendre, qui sont plus. Mais j'avoue que je ne connais pas beaucoup français, là. Je ne connais pas beaucoup les générativistes français.
Oui, mais comme je disais en phonologie, je crois pas. Je suis avec Bernard Lax, on a créé un groupe CNRS qui s'appelle Phonologie, qui regroupe la plupart, je ne dis pas tous les phonologues de France. Et je crois que tout le monde a été influencé par les théories génératives.
Mais
bon,
je comprends. Non, mais je regarde ça, là. J'ai pas lu, là. Mais ça, à première vue, ça ressemble pas à du générativisme. À première vue. Parce que je m'étais entendu voir des équations, des chiffres, des chiffres.
Ah, il y en a, là, quand même. Là, vous avez.
Il faut les chercher.
Vous avez les tableaux. Non, tous les tableaux, regardez. Regardez, tous les tableaux, là.
Ouais, bon, il y en a quelques-uns ici. Bon, alors là, je verrai bien. Oh là là, voilà, charcutier. Non, mais je regarde ça, ça me dit.
Mais le début,
vous expliquez la langue.
Non, mais je crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire. Je travaillais beaucoup sur le français du midi.
C'est un outil qui sert à décrire.
Et ce qui m'intéresse, c'est bon, de également, d'accord, j'ai des intérêts théoriques, mais c'est de décrire le français du midi, puisque c'est sur ça que je travaille plus particulièrement. Mais j'ai manqué votre intervention sur le.
Moi, je trouve ça tout à fait compréhensible. Ça. Je regarde ça, ça me dit quelque chose. Et vous, ça me dit quelque chose, mais. Enfin, je vais le dire.
Vous lirez.
Vous citez. C'est un de mes bons amis.
Oui.
Alors lui, il fait tout, lui. Hein. Les théories, il les connaît tous, il les pratique tous. C'est un homme qui m'épate. Oui. Tous les sujets, il y a quelque chose à dire. Alors
c'est
vraiment,
c'est quelqu'un d'exceptionnel.
C'est un grand travailleur.
Quelqu'un d'exceptionnel. On devait manger ensemble mardi soir et malheureusement, j'ai eu des problèmes pour trouver une chambre à Montréal.
Ah oui? Pourquoi donc? Ah,
c'est et c'était, il y avait beaucoup, j'ai pas compris.
Non, c'est que maintenant, depuis quelques années, on réussit à vendre le mois de septembre aux Européens. C'est-à-dire que c'est le plus beau mois ici, il y a des feuilles, on leur dit pas qu'il pleut, mais souvent il pleut pas, faut dire. Mais souvent il pleut pas en septembre. C'est un beau mois. Surtout vers la fin du mois. Alors là, les feuilles commencent à venir. Mais attendez, dans 10 jours, c'est la merveille. 10 jours, même moins une semaine, là, c'est une merveille partout. Là. Prenez une voiture, vous allez dans les campagnes, c'est très beau.
C'est
donc
vrai.
Là, on réussit à avancer aux Européens, puis on étire ça jusqu'en novembre. Alors là, les gens à Montréal, c'est plein tout le temps. Moi, j'essaie des fois pour aller cola, puis c'est toujours plein.
Ce qui a fait qu'on n'a pas pu le...
Vous n'avez quand même pas couché dans le fossé?
Non, on a couché à l'hôtel, mais pas le... jusqu'au lundi soir, mais pas le mardi soir.
Ah, oui.
L'hôtel n'avait pas de chambre, les hôtels à côté non plus.
Ah, ben.
Donc, j'ai pas pu aller le revoir, parce que je l'avais vu au colloque là où je participais.
Alors, vous êtes venu quand même pour le colloque de l'association, là.
Voilà, je suis venu pour le colloque à FLS, je suis membre depuis longtemps de la FLS. Et Carole Paradis m'a fait inviter également.
Ah oui.
J'ai obtenu une bourse pour passer 5 semaines et je suis très enthousiaste. Et je voudrais revenir dans 2 ans d'ailleurs. Je vais essayer de tout mettre en œuvre pour revenir pour un mois de nouveau.
Vous avez travaillé avec Carole ici?
J'ai travaillé avec
Carole. Ça, c'est une autre personne qui travaille dangereusement. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça. Elle en mange, hein. Ah, c'est effrayant.
C'est effrayant. Même pour moi.
Ah oui, c'est effrayant.
Voilà, donc, mais je suis un petit peu tombé, je suis tombé amoureux du Québécois.
Ah oui?
Du français au Québec, sur lequel je ne savais que peu de choses. Je dois avouer que j'étais, comme beaucoup de Français, très ignorant.
Oui.
Je suis même honteux de le dire, mais bon.
Vous venez en plus d'une région où les liens avec le Québécois sont pas si étroit. Il y a quelques liens quand même avec les gens du sud. Mais disons que si on compte dans le sud, la région de Bordeaux, tout ça, là, on monte un petit peu, le Saint-Onge, ça touche un peu, parce qu'historiquement, Saint-Onge et Poitou, ça a navigué dans les deux domaines, hein. Donc, mais sinon, dans le sud, on trouve quand même des noms de personnes provençales. Je vois qu'il y en a, à peu près 9% des colons sont venus du sud.
Ah oui.
Du sud veut dire au sud de la frontière linguistique, mais l'ancienne, pas la nouvelle, l'ancienne qui est un peu plus basse. Là. Donc, alors, à peu près 9% des colons sont venus là, mais 90% sont venus d'en haut. Donc, ces 9%-là, c'est émietté un peu partout sur le territoire. Quand on vient du Dauphinois ou qu'on vient de la Gascogne, c'est pas la même chose. Là. Mm-hmm. Et je pense que ces gens-là sont venus surtout à travers les troupes de l'armée. Mm-hmm. On avait le régiment de Gascogne, le régiment de... Je ne sais pas trop, mais il y a des noms de villes très connues en France. Mm-hmm. C'est des régiments importants, c'est venu sous le régime français. Donc, les gens venaient là-dedans, et j'ai l'impression que ces gens-là, je ne sais pas s'ils devaient parler le français, j'imagine, ces militaires-là, ils étaient dans une armée. Je ne suis pas sûr qu'ils parlaient le français au départ, comme dans leur patelin.
Difficile de savoir.
Dans leur patelin.
Beaucoup parlaient au 19e siècle.
Encore le patois.
Le languedocien ou l'occitan était très parlé dans le sud.
Non, mais quand vous faites partie de la milice française... Il devait bien avoir...
Oui, je pense qu'il devait comprendre le français.
Oui, oui.
Mais oui, c'est vrai que c'est un facteur de...
d'intégration. Oui, d'intégration. Ouais. Ouais. Alors, on en a ces miliciens-là. J'en ai vu un certain nombre qui arrivent du sud. Et il y a quelques noms aussi dans la forme. Je me dis, ça, il faut que ça vienne du sud. Ou des noms qu'il faut dire que c'est tellement difficile parce que ça voyage beaucoup facilement. Mm-hmm. Les mots, les prononciations ne voyagent pas beaucoup. Mais les noms de personnes traduisant des faits de prononciation, voilà, ça, on ne peut pas en tirer beaucoup, beaucoup de choses, là. Mais il y en a qu'on appelle un tel dit le Provençal. On ne veut pas le surnommer le Provençal pour rien. Mm-hmm. Il devient un Provençal. Mais,
enfin, mais ce qui m'intéressait, c'était, je l'ai manqué, puisque j'ai manqué votre conférence, c'est comment vous expliquez le... Disons, l'autre jour, vous m'avez dit qu'il y avait le Québécois, le Français au Canada s'est formé très vite, en fait.
Ouais.
Et ça m'a surpris, mais
ouais.
D'après ce que vous m'avez dit l'autre jour...
Ouais.
Non, c'est...
Oui. Il y a eu un livre publié par Mougeon. Vous connaissez peut-être Raymond Mougeon. Il a fait un collectif dans lequel plusieurs chercheurs avaient fait chacun leur partie. Moi, j'en ai fait une là-dedans où je donne l'entier de mon point de vue là-dedans. Ce que je crois, c'est que les gens qui sont venus ici, qui ont traversé l'océan, en arrivant ici, ils parlaient le français. J'en suis profondément convaincu. Ces gens-là avaient une certaine commande du français. Je vous dis pas que ces gens-là avaient le français comme langue maternelle. Mais il le connaissait. Le français, on le sait maintenant, c'est le français utilitaire, le français populaire au départ. Il était connu dans les régions de France et certainement il servait de genre de koiné entre les régions, tout en soulignant aussi le fait que d'une région à l'autre, il n'y avait pas toujours des différences si énormes avec le français. Je comprends bien que quelqu'un qui parle le normand le plus typique, bon, c'est pas compréhensible peut-être par un Parisien, mais il y a des variantes là-dedans. Des fois, c'est des prononciations un peu curieuses, mais on arrive quand même à s'entendre. C'était pas coupé au couteau, ces histoires-là, entre la Normandie, l'Île-de-France, le Maine, Poitou. Il y a eu quand même des rapports historiques. Alors, ces gens-là, d'après moi, parlait une certaine forme de français déjà, parce que sinon, on peut pas comprendre l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Vous avez la Louisiane qui est fondée parallèlement, l'Acadie qui est fondée parallèlement, puis Québec. Trois sections, trois régions, trois peuplements distincts, et ces gens-là parlent tous le français. Ça serait tout hasard que dans les trois peuplements, surtout l'Acadie qui venait de l'Ouest, Poitou-Saint-Onge, ces gens-là parlent le français. C'est sûr qu'ils ont encore aujourd'hui un français marqué, mais marqué par des tendances historiques du français. Mm-hmm. Voyez-vous, pas tellement patoise finalement. C'est bon, on veut bien qu'on dise encore moitié pour moitié, quelques prononciations comme ça, mais c'est pas des prononciations qui ne peuvent pas s'expliquer dans l'histoire du français. Au contraire, cette palatalisation ou dépalatalisation, on la connaît dans l'histoire du français. Mm-hmm. Donc, comment expliquer que ces communautés-là arrivent à parler le français? Prenons surtout l'Acadie. Comment ça se fait qu'ils parleraient aujourd'hui le français s'ils ne le parlaient pas à l'origine? Mm-hmm. On peut pas l'expliquer parce que ces gens-là ont vécu en vase clos. Ils ont été décimés 50 fois. Ils ont, dès le régime, pendant que nous étions sur le régime français, eux sont passés près de 3 ou 4 fois aux Anglais, aux Français. Ils étaient toujours en deux eaux. Les communications avec la France étaient finies. Il n'y a pas eu d'immigration par la suite. Alors, ces gens-là ont été dispersés à travers les continents. Ils ont été dispersés, notamment vers la Louisiane. Mmh. Et en Louisiane, c'est leur variété qui s'est imposée.
Ouais.
La preuve, c'est celle qui est la plus marquante en Louisiane, c'est l'Acadien. La variété la plus marquante. Mais il y a un empris où l'Acadien, je le comprends, moi, c'est du français. Français marqué, mais c'est du français. Mmh. Alors, s'ils n'avaient pas parlé français au départ, ces gens qui venaient à 60% à peu près pour l'Acadie, Poitou-Saint-Onge, 60%. S'ils n'avaient pas parlé français, comment expliquer qu'ils l'aient parlé par la suite? Et vous? Bon. Deuxièmement, le Québec. Lui, le Québec a été colonisé à partir, à peu près dans la proportion d'un tiers, en gros, autour de l'Île-de-France et régions, provinces voisines. Un tiers du Nord-Ouest, je veux dire Normandie, Maine, Bretagne française, puis le Nord un peu, puis un tiers venant de régions de Poitou, Saint-Onge, ces régions-là. Mmh. Donc, les gens arrivent de plusieurs régions. Ces gens-là, vous savez que pour venir ici, s'il y a un contrat d'engagement, des fois un an, des fois deux ans même avant de venir, on leur demandait de se rendre dans un port de mer, La Rochelle, Saint-Malo, tout ça. Mmh. Ils attendaient là, des fois ils attendaient jusqu'à 6 mois, un bateau. Alors, ils prenaient le bateau, ils voyageaient pendant combien de temps? 6 semaines? 2 mois? 2 mois et demi, des fois, pour se rendre ici? Qu'est-ce qui se passe? Même si, au départ, ils n'avaient pas eu une connaissance suffisante du français, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Quand vous partez de la Champagne, puis vous en allez à La Rochelle, vous attendez 6 mois de traversée, vous passez 2 mois sur un bateau avec des gens qui viennent d'un peu partout, il y a quelque chose, il y a une expérience humaine qui s'est passée, là, voyez-vous? Alors, bon, moi, je donne ça comme argument, mais mes principaux arguments ne sont pas là. Principaux arguments, c'est les documents que j'ai. J'ai dépouillé des centaines, des milliers de documents du régime français depuis le tout début d'arrivée de Champlain, là, jusqu'à nos jours, mais la période qui nous concerne pour la discussion, c'est juste, mettons, vers 1800, parce que là, on voit très bien une évolution dans ce temps-là. Il y a pas de mots, il y a des mots patois, oui, il y en a, mais des mots patois que je dis encore aujourd'hui. Achalé, bandré, placoté, magané. Je suis encore ça. Ces mots-là, je les trouve à l'époque, mais je les dis toujours. Ce sont des mots patois qui étaient intégrés dans le français de la Nouvelle-France, ça c'est clair. Et on le voit, quand je regarde les glossaires du Poitou d'aujourd'hui, Verrio-Nilon, le comte de Jaubert, le centre, ben, les phrases telles quelles qui relèvent là, je les dis, moi. Et je les trouve, des fois, pas toujours attestés anciennement. Vous savez ce que c'est que des attestations, hein? C'est à l'époque ancienne, ils n'avaient pas le temps d'écrire tout ce qu'ils disaient, là. Ils avaient seulement le temps de se protéger contre les Iroquois, puis de cultiver leur terre. Donc, si on observe ça, c'est les mêmes que nous. J'en relève. J'ai fait un petit quiz à Radio-Canada tous les samedis matins cette année. J'en ai un demain, d'ailleurs. Et souvent, je traite de vieilles expressions. Je parle toujours un peu des rapports avec la France, les régions de France. Parfois aussi, je fais des questions sur la comparaison. Mais là, encore là, demain, je sais que je vais leur parler. Voyez-vous, cette expression, c'est dit en Anjou. On disait ici de quelqu'un que « As-tu perdu un pain de ta fournée? » On demandait ça à quelqu'un. Ça voulait dire « Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui va pas? » C'est ça que ça voulait dire. Mais pourquoi on disait ça? Anjou, glossaire de l'Anjou, je vois. On dit ça à quelqu'un qui a l'air songeur, qui a l'air de triste. Ça vient de là-bas avec une légère variante. Donc, on ne l'a pas inventé. Et moi, dans ces cas-là, je me dis, si ça se dit en Anjou, je le trouve au Québec depuis peut-être première attestation, 1894 dans ce cas-là. Mais moi, je sais que ça relève du régime français. Comment voulez-vous que ça soit venu ici, si ce n'est pas à l'époque du régime français? Il n'y a pas eu d'arrivée après. Il n'y a pas eu. Les arrivées, c'est récemment, là, au 20e siècle. Ce qui est produit après la fin du régime français jusqu'au 20e, ceux qui arrivent, les immigrants, les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les Américains, il n'y a pas beaucoup de Français. Mm-hmm. Quelques-uns, mais pas grand-chose. Mm-hmm. Voyez-vous, les Français ont arrêté l'immigration à ce moment-là. Donc, toutes ces expressions-là qu'on trouve, fin 19e, milieu 19e, ils viennent du régime français. On n'a pas le choix. Voyez-vous, il y a eu une coupure nette avec la France. Donc, quand je regarde donc tous ces faits que je trouve, j'ai trouvé par exemple un livre de contes écrit par un meunier québécois qui avait à peu près 22-23 ans à l'époque. Il a écrit ça pendant une vingtaine d'années. Il est né en 1660 à Québec. Et je trouve que c'est tout, plein de fautes, plein d'erreurs, tout ça. Mais c'est merveilleux parce que là-dedans, c'est du français. Français, mais avec beaucoup de mots régionaux de France qu'on connaît plus parce que souvent, il désigne des réalités qui sont disparues. Des prononciations, on voit bien par les fautes qu'il fait des prononciations, il prononçait des très fortes palatales qui sont disparues aujourd'hui. Il confondait les « ou » et les « o », comme « mouru »,« moru », »,« coulombe »,« colombe », il y avait ces trucs-là. Il y avait aussi des aspirations, « hawk »,« hal », on voit ce genre de choses-là. Mais ce sont toutes des choses que je trouve par la suite dans l'histoire du Québec. Aucun fait du régime français, je peux dire, surtout la phonétique, j'ai fait d'abord des travaux en phonétique pour ma phonétique historique du québécois, je trouve, pour ainsi dire, pas de faits qui ne sont pas testés par la suite dans les documents. Certains sont disparus parce que c'est... Mais, par exemple, je vous donne un exemple contemporain encore. On dit encore au Québec le lit, le bout, on veut dire le lit, le bout, le t final. Hein, comment?
Dans les noms propres aussi, brunette.
Ah ben oui, dans les noms propres, évidemment, mais ça se maintient encore beaucoup.
C'est comme dans le
milieu. Ah ben oui. Alors là, dans ces noms communs, on se rend compte que sur le régime français, il y en avait beaucoup plus qu'il y avait un T. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire j'achète 2 billettes pour aller au spectacle. Je ne peux pas dire ça. Impossible. Mais je veux dire 2 billets, je vais dire, je prends un paquet. Mais par contre, moi, je peux dire encore le litre, debout, la nuit, je peux dire ça encore, je ne dis pas ici, là, mais c'est la prononciation normale.
Dans un contexte
ma famille.
Familial.
Ben oui, je vais dire ça. Je vais dire, si mon fils arrivait, ben là, ils sont rendus grands, je les dispute moins que je les disputais, mais si mon fils arrive à 15 ans, puis il arrive à 3 heures du matin, je dis, qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Je dirais pas qu'est-ce que tu as fait toute la nuit. Parce que là, je suis fâché. C'est mon accent significatif qui va sortir, rendez-vous émotif, tout ça. Là. Donc, ces prononciations-là se maintiennent. Ils datent du régime français, mais ils se sont amenuisés. Et beaucoup de mots, il y a des séries qui se sont dégarnies, quoi. Mm-hmm. Il y a des, hein, le T final se prononçait beaucoup plus largement. Donc, en gros, c'est ma vision de la chose. Mm-hmm. Et elle est confortée fortement par les études que j'ai faites récemment sur le passage du régime français au régime anglais. Quand j'observe qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle, je me dis, ah, il y a quelque chose d'évident. De plus en plus, et également, je regarde les témoignages du régime français dans des textes, je me rends compte que sous le régime français, il y avait deux usages ici. Il y avait un usage qui était celui dont je viens de décrire, l'usage issu des parlers de France, populaire, familial, de gens qui sont pas, qui s'intéressent pas à la langue écrite, etc., parce qu'ils n'en ont pas besoin, et un usage de dominant, du point de vue social, des gens qui voyagent, qui font le circuit entre la France et la colonie, qui administrent cette colonie-là, qui possèdent des biens, voyez-vous. Donc, c'est surtout, évidemment, des gens qui ne restent pas dans la colonie, qui passent. Et même parmi ceux qui restent, des fois. Quand ils sont nés en France, ils vont garder leur usage, ils s'associent à ceux qui voyagent. On voit que par leur culture, par leur tendance, leur affinité, ils ne sont pas trop à l'aise avec ces habitants canadiens qui sont sur leur terre. Et même des gens nés au Québec. Une histoire très amusante que j'ai donnée lors de ma conférence. Deux sœurs, deux religieuses. La première est née en France. Son père était un très haut fonctionnaire sous Jean Talon, puis par la suite, je ne sais plus. Alors lui, il voyageait entre les deux, mais il restait au Canada. Il est arrivé ici, puis il est demeuré ici. Sauf que sa petite fille, il l'a laissée en France pour qu'elle suive une bonne éducation. Alors, sa petite fille est arrivée ici à l'âge de 12-13 ans, je ne me souviens plus. Et à 18 ans, elle est entrée chez les sœurs. D'accord? Il l'a fait entrer chez les sœurs. Donc, mais entre-temps, il y a eu une autre fille ici, quelques années après, mais elle qui est née au Québec, qui est entrée également chez les sœurs par la suite. Et là, on a leur correspondance. C'est suave. C'est suave parce que ces deux personnes très... comment je dirais... leurs sentiments sont pour la France. Ça, c'est évident. Et même la cadette qui est née au Québec. Alors, sa sœur écrit même quelque part, ma jeune sœur, vous savez, elle est canadienne de nation, mais elle est d'âme française. Et je vois quand c'est la plus jeune, la cadette qui écrit, qu'il parle de la communauté, ce qui se passe, leurs écrits, c'est des commandes de produits en France, des savons, puis des herbes, puis médicinales, puis en tout cas, j'en ai appris sur la médecine populaire beaucoup en faisant ça. Mais elle écrit donc en France, puis souvent elle leur dit, vous savez, envoyez-nous plus ce genre de produits, parce que nos sœurs canadiennes ne les aiment pas. Vous savez, nos sœurs canadiennes ne sont pas toujours accommodantes. C'est pas toujours, ils sont pas faciles comme les sœurs françaises. Voyez-vous, elle est canadienne, elle est née au Canada. Mais elle parle de nos sœurs canadiennes. Elle ne se considère pas comme canadienne. Alors, c'est assez incroyable. Ça veut dire que ça me confirme le fait qu'il y a quand même deux opinions sur le régime français, d'après moi. Deux façons de concevoir la vie, de concevoir la société. Il y a celle qui appartient aux gens qui sont venus ici, qui ont relevé leurs manches, qui ont peuplé la colonie, puis qui ont fait des enfants, tout ça. Et l'autre, les gens qui administraient la colonie, qui avaient les biens, qui dirigeaient la colonie. Voyez-vous, ces gens-là demeurent d'allégeance française. Ils écrivent. Évidemment, tous les textes administratifs de l'époque, je suis de la France de l'époque, je trouve évidemment des mots québécois, on va trouver là-dedans coureur de bois, on va trouver poudrerie, des trucs comme ça, des mots inévitables, mais sinon on t'écrit comme en France. Mais quand je lis mon livre de compte de meunier québécois, là c'est pas ça que je trouve. Les mots, c'est des mots québécois que je trouve encore aujourd'hui, qui se sont implantés. Voyez-vous? Mm-hmm. Alors pour terminer ce point-là concernant les deux idéologies, je me rends compte qu'au 18e siècle, les historiens n'ont jamais voulu trop le dire avant. Comment ça le dire? Vous savez, il faut surtout pas dire, quand vous êtes dans un pays, surtout depuis les années 60 ici, c'est un pays où on veut l'indépendance du Québec, on veut se démarquer des Anglais. Il ne faut surtout pas dire qu'on aurait pu avoir des problèmes avec la France. Il ne faut pas dire ça. Voyez-vous? Mais durant le 18e siècle, maintenant, les historiens sortent des documents, on voit très bien qu'il y avait une différence d'opinion et les Canadiens commençaient à en avoir marre. Se trouvaient exploités par les Français. Ils trouvaient que c'est eux qui devraient prendre des décisions. De temps en temps, c'était jamais eux. C'était en France. Donc, ils commençaient à avoir un peu d'amertume. Voyez-vous? Ce qui s'est produit, c'est inévitable. Les Américains ont connu ça, on le sait bien plus fortement. Mais ils commençaient à avoir un petit peu de récrimination. Et quand arrive justement la fameuse bataille des plaines d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? On nous envoie un général Montcalm, qui arrive de France avec ses troupes. Mais sur place, on en a aussi des troupes, des Canadiens, qui sont dirigés par Vaudreuil. Et le, enfin, Vaudreuil, je crois pas, soit le un général, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est lui qui était le répondant face à Montcalm. Alors, Vaudreuil, il dit à Montcalm, comment vous allez faire? Ben, Montcalm, son plan d'attaque, c'était comme il avait vu, comme ça se passe aux États-Unis, si vous avez vu le film de Patriot, le film américain. Alors, on se met en face de l'autre, là, puis on est digne, on est noble. Tirez les premiers, messieurs, vous direz, on a le moitié qui tombe. Puis c'est à notre tour, on tire. Puis tant qu'il y avait ça sur le champ de bataille, c'est comme ça que ça se passait, les guerres européennes. Mmh. C'est des guerres très dignes. Pas au Canada. Au Canada, jamais. Les gens se battaient à l'indienne, comme les Indiens. Alors, il arrivait une troupe, on les cachait, personne ne nous voit. On les cachait dans les fourrés, cachés dans les arbres, cachés dans les trous. Puis bang, on gagne tout le temps. Comprenez-vous? Mmh. Alors là, quand Vaudreuil a vu Montcalm, il dit, t'es fou! Cette guerre-là, on va la perdre tout de suite. Ils sont plus nombreux que nous. Nous, les Canadiens, on peut la gagner. Montcalm n'a jamais voulu, c'est lui qui avait l'autorité. On fait ça de façon digne. Alors Montcalm, il est mort dignement, il s'est fait tirer. Puis Wolfe aussi, il s'est fait tirer aussi. Mais les Anglais étaient plus nombreux, donc plus les coups de feu plus nombreux d'un côté que de l'autre. Et pour vous dire que la mentalité était très différente. Et ça, on le voit dans les guerres qui ont suivi. Quand les Américains ont essayé de rentrer au pays en 1812, il y a une couple de reprises, qui les a arrêtés? Les Québécois. Les Québécois qui étaient une petite poignée de rien, qui allaient par exemple à Salaberry. En 1812, les Québécois sont allés avec quelques Indiens. Ils ont complètement avalé l'armée américaine, qui était plus capable de, savait plus de déborder sur tous les plans. Les Canadiens se battaient comme des Indiens. Comprenez-vous? Mm-hmm. Donc tout ça, je veux vous dire qu'il y avait deux mentalités. Et quand arrive le régime anglais, que je vois les premiers textes, sans lire les historiens, je lis seulement les textes, je me dis, tiens, je les vois arriver. Qu'est-ce que je vois arriver? C'est que dans les textes dorénavant, c'est plus les mots français, standard qu'on trouve. On trouve des mots canadiens dans les mêmes textes qu'on trouve avant. Par exemple, dans les textes des notaires, évidemment, c'est pas surtout là qu'on voit la différence, parce que les notaires, ça va être les degrés d'instruction. Sous le régime français, il y en avait qui étaient plus intrus, d'autres moins. On trouve un peu de tout. Mais les mots proprement canadiens sont beaucoup plus nombreux, même chez les notaires, juste après 1760. Et ce qui est le plus drôle, il y a des mots français qui étaient les seuls mots utilisés, ils disparaissent, on les voit plus du tout. Je vous donne un exemple, le mot carotte, le mot, l'expression plutôt à carreau, en parlant d'une chemise, d'une veste, d'un tissu quelconque. C'est un mot archi fréquent sur le régime français. On disait à carreau, comme vous dites actuellement en France. Arrive le régime anglais, je trouve quelques petites attestations, ça disparaît tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve? Partout, carotté. Écrit C-A-R-R-A-U-T-E. Alors, pour un français d'aujourd'hui, d'ailleurs, le mot, on se demande toujours ce qu'il y a un rapport avec carotte. Non, non, c'est pas la carotte, c'est le mot carreau, qui a donné un verbe carotter, c'est-à-dire diviser en carreaux ou tracer des carreaux, d'où le participe adjectif carotter. Donc, d'un tissu carotté, une chemise carottée, on disait des culottes carottées. Comprenez-vous? C'est le seul mot. Comment expliquer que le mot à carreaux, qui était très bien attesté dans les textes, disparaît complètement, on ne le voit plus. Il y a seulement carotté. Alors, j'ai cherché carotté. Je me suis rendu compte que c'est un mot qui vient des régions de France, bien attesté depuis longtemps dans ces régions-là. Ça se dit sans doute plus aujourd'hui. Il a traversé, et c'est ce mot-là qui était le mot de tout le monde. Donc, avec la conquête anglaise, il y a une espèce d'émergence de l'usage canadien réel parce que les Français de l'élite partent, parce que les gens qui voyagent de la France, on n'en a plus besoin, ils sont interdits de séjour. Les marchands, c'est plus les Français qui dominent, c'est les Anglais. Donc, ceux qui vont prendre le pouvoir, disons, le petit pouvoir qu'on pouvait prendre sur place, ceux qui vont administrer les choses pour les francophones, c'est les gens de la place qui, eux, pratiquent un autre usage. Alors ça m'a paru très nettement dans les textes que j'ai... Puis là, de plus en plus, on trouve des preuves incroyables de ça. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, là. Mais en gros, c'est comme ça que c'est cet argument supplémentaire qui me dit qu'avant, c'est du français qui se parlait ici, sous le régime français, et depuis le début, parce que... En plus, ces témoignages directs des gens qui passaient, il n'y a personne qui nous dit qu'il a entendu parler un mot de patois. Personne n'a entendu ça. Personne n'en parle. C'est tout le contraire. Ils nous disent, les gens au Canada, ils parlent un très bon français. Mmh. C'est ce qu'ils nous disent. Ça veut pas dire, je crois, qu'on parlait français parisien, là. Ça veut dire que comparativement à la France, où les gens parlaient encore les patois de façon usuelle, ici on parlait plus le patois, on parlait français.
Et vous pensez que ça pourrait être une thèse de créolisme local ou non? En ce sens qu'aux États-Unis, par exemple, il y a, au cours des 20-30 dernières années, il y a des thèses sur l'anglais des États-Unis ne s'expliquant pas par les variétés de Grande-Bretagne, mais plutôt par une sorte de créolisation influencée aussi par les langues amérindiennes, entre autres. Je suis pas très, moi je suis très sceptique sur cette thèse-là qui me semble un petit peu
J'ai lu quand même pas mal de spécialistes américains sur cette question.
Dillard, par exemple. C'est Dillard qui descend D-I-2-L-A-R-D, défend cette thèse. Moi, il me convainc pas.
Il dit autre chose ailleurs aussi. Oui. Il dit pas seulement ça. Mais j'en ai lu beaucoup d'autres. Et la thèse que j'ai vue la plus, c'est assez bizarre, c'est qu'ils nous disent que les gens venaient des régions d'Angleterre. Il y a beaucoup de mots maritimes au départ, comme c'est le cas pour les francophones. Il y a beaucoup de choses très simples. Ils viennent de petits milieux, ces gens-là, au départ, ceux qui s'en viennent. C'est comme si c'était produit au Québec. Et l'explication que j'ai vue donner la plus sérieuse, c'est que même l'explication que je vous donne ici, les gens arrivaient ici, ils parlaient, et je l'ai vu tel quel. Je me demande si Dillard ne le dit pas lui-même quelque part. Si c'est pas lui, en tout cas, j'ai fait un bilan de ça et la personne écrit, c'est clair que les gens arrivaient ici, ils parlaient l'anglais. Ça, c'est évident. Une conclusion évidente de ce chercheur, dont j'oublie le nom malheureusement. Là. Moi, je crois que c'est la même chose qui s'est produite. Et en 1800, je me souviens qu'en 1725, d'avoir lu un texte, un nommé Whitespoon, je crois, qui nous dit, et qu'on parle mal l'anglais aux États-Unis, toutes les fautes possibles. Alors, les fautes qui relèvent sont des fautes qu'on relève en Angleterre. Mm. Ce sont des faits de langage, de prononciation, ou parfois des extensions de sens, qui là, évidemment, comme ça s'est produit au Québec, qu'on puisse produire aux États-Unis.
Non. Mais Dillard, dans certains de ses ouvrages, je défends une thèse très créoliste en parlant de, d'une sorte de créole non seulement amérindien, mais aussi hollandais, allemand, etc. Moi, j'y crois pas trop.
Mais amérindien.
Parce que je crois qu'il n'y a aucun des traits comme vous, qu'il n'y a aucun des traits de l'anglais américain qui, d'une façon ou d'une autre, ne se retrouve pas dans des dialectes.
Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, vraiment, là, mais d'abord, quand on parle mélange avec les Amérindiens, alors là, c'est vraiment faire une foutaise, parce que les Amérindiens, les Anglais n'ont jamais voulu se mêler d'aucune façon avec les Amérindiens. Nous, oui, les francophones, les Français qui sont arrivés ici sont mariés avec les Amérindiens. On a donné naissance à des nations complètes, les Métis, et il y a eu beaucoup, il y a eu des guerres avec eux, mais il y a eu beaucoup d'alliances, jusqu'à temps que le gouvernement fédéral décide de faire des réserves. De forcer les Amérindiens à vivre dans les réserves. Les Amérindiens vivaient avec nous, dans nos villes. Ben oui, au 19e siècle, ils vivaient avec à Montréal, on l'envoyait dans les rues, ils étaient bien Amérindiens, puis ils étaient, voyez-vous. Alors que les Américains, jamais, les Américains leur ont coupé les oreilles, ils les ont chassés, ils les ont tués. Vous connaissez l'histoire américaine, non? C'était une histoire de chasse. On ramassait les oreilles, on était payé à la paire d'oreilles qu'on ramassait. C'est pas ce qui s'est passé ici, là. Alors, devant un tel carnage, je vois pas comment on pourrait dire que les Amérindiens ont pu avoir une influence sur l'anglais américain. Écoutez, ils se sauvaient le plus possible des Américains où ils résistaient dans les montagnes.
Je vous enverrai la citation.
Ah oui, oui.
Ah, oui. Ça vous
intéresse? Non, mais je vous crois qu'il l'a dit, je veux dire, je trouve ça un peu aberrant qu'on puisse avancer ça, là. Seulement au vu de l'histoire américaine la mieux connue, là. Concernant les rapports.
Moi, j'ai travaillé, j'enseigne l'anglais aussi à Toulouse.
Ah oui?
Je suis dans le département d'anglais, en fait.
Ah oui?
Donc, mes recherches principales portent sur le français, mais je suis dans le département d'anglais. Donc, je travaille un petit peu sur l'anglais, mais moins intensivement, en fait, que sur le français.
Et l'anglais, c'est la variété
britannique? C'est-à-dire que j'ai vécu plus de 20 ans en Grande-Bretagne. Bon, je connais beaucoup mieux les variétés britanniques qu'américaines.
Ah oui, je comprends.
Mais la thèse de Dillard, enfin, cette thèse-là, une thèse créoliste, ne me convainc absolument pas. Et les petits domaines sur lesquels j'ai travaillé, par exemple, je travaille sur le R post-vocalique, on prédit l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a eu une sorte de créolisation, vu qu'il y avait de nombreux accents qui étaient sans R post-vocalique, on aurait pu imaginer que ça aurait émergé comme une norme absolue, etc., alors que c'est pas ce qui se passe. Enfin, je vois pas tellement la thèse de la créolisation.
Donc, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'accents régionaux. Beaucoup d'accents régionaux. Moi, je connais mal l'Angleterre, je suis allé une fois ou deux, mais j'ai aucune opinion sur l'Angleterre. Aux États-Unis, on aurait pu penser qu'il y aurait moins, parce qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup d'accents régionaux, finalement. Ce qu'on appelle des régions du Québec, du point de vue des accents, en tout cas, c'est simplement on pointe par là le fait que dans ces régions-là, on conserve plus les anciennes choses que dans les régions du centre. Au Québec, Montréal, Trois-Rivières, s'évolue, tandis qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus conservateur, donc on trouve là l'usage il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a plus de choses anciennes qui se conservent, mais il n'y a pas de différence, sauf avec les ondes de rencontre avec l'Acadien. Alors là, c'est net. Quand c'est Acadien, vous ne trompez pas, vous l'entendez. D'après deux sons, je sais que c'est un Acadien. Parce qu'il y a quelques traits de prononciation de prosodie. Il va dire « je vais à la pêche ». Il n'y a pas un Québécois qui peut dire « à la pêche ». On va à la pêche. pêche. Dès que vous avez un haie long qui n'est pas diphtongué ou pas ouvert, ça ne peut pas être un Québécois. Voyez-vous? C'est un trait. Puis les D, les T également qui sont assimilés chez nous. On dit lundi, mardi. Les Acadiens de souche vont dire mardi, mercredi avec un D. Mais il y a quelques zones québécoises qui sont englobées dans le domaine acadien. Mm-hmm. Baie des Chaleurs, Côte-Nord, Île-de-la-Madeleine, évidemment. Mm-hmm. Bon. Enfin, je sais plus où est-ce qu'on en est, d'où est-ce qu'on est parti.
On a été la créolisation, le français. Mais c'est... Moi, je suis convaincu par ce que vous dites. Ça m'a Est-ce que vous connaissez les travaux de Anthony Lodge?
Oui.
Parce que c'est un très bon ami et j'aime beaucoup ce qu'il a fait.
Il était ici, j'ai vu. J'ai entendu sa communication. Ben, il était tellement, il avait l'air de dire que, écoutez, moi, je m'y connais pas trop, vous êtes spécialiste, mais au contraire, c'est un apport tout à fait intéressant. C'était très.
Il a fait un travail d'archives aussi très intéressant.
C'est un.
À Clermont-Ferrand et
c'est
autres.
C'est ça.
Qui est très intéressant.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Intéressant. Et comment vous voyez, alors, j'ai manqué peut-être, vous avez sans doute parlé de l'avenir du français au Québec ou à l'Amérique du Nord, je ne sais pas si vous en avez parlé.
Oui, c'est sûr.
Comment vous voyez ça?
Ben, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect interne, cette langue-là, où est-ce qu'elle s'en va comme langue? Est-ce que c'est une langue qui se rapproche du français de France, une langue qui est en train de se dégrader, comme certains disent? Moi, c'est clair de mon point de vue, quand je regarde 40 ans en arrière, c'est très clair qu'il y a un rapprochement très net du français de France. Il y a beaucoup de mots qui disparaissent, beaucoup de prononciations qui disparaissent. Prononciation, c'est plus... Il y en a certaines qui se figent, voyez-vous? Mmh. Qui se figent, qui s'affirment. Par exemple, toutes les traits de prononciation qui sont liés plutôt à l'orthophonie, mm-hmm. ces traits-là ont tendance à devenir figés, c'est-à-dire que ça devient un marqueur identitaire. Par exemple, moi, je peux dire vite, je dirais pas vite, j'ai un i ouvert. Mm-hmm. C'est ouvert, vous le trouvez partout au Québec, il n'y a plus personne qui résiste à ça. Sauf si je dis, va pas trop vite, il y en a qui vont ouvrir beaucoup, ça, la grande ouverture,
d'accord.
C'est pointé. Donc, c'est... Mais, savez-vous, donc je dirais les traits qui relèvent de la... l'orthophonie, ce sont des traits qui ont tendance à rester. La sibilation de tse, tse. Les voyelles nasales. Moi, je dis pas maman, je dis maman. Je dis ma tante, je dis pas ma tante. Je dis mon oncle, je dis pas mon oncle. Voyez-vous? Donc, ces traits-là, ça reste. Quel autre trait que je pourrais vous donner là-dedans? La prononciation du R à Québec, ça pose pas de problème, mais celle de Montréal, le R, est en train de disparaître assez rapidement. Mm-hmm. Qu'est-ce qui resterait dans la prononciation? La longueur des voyelles, des nasales les plus longues. Vous avez également, chez nous, une tendance très forte, pas seulement une tendance, mais presque une obligation à prononcer le A postérieur en final. Je peux pas, en prononçant en final des mots un A antérieur, impossible. Je peux pas dire mon frère est avocat, impossible. Mon frère est avocat. Donc, il y a quelques distributions phonologiques qui sont figées, et ça bougera pas. Là où ça a bougé beaucoup, c'est tous les faits qu'on pourrait rattacher, je dirais, à l'orthoépi, si on peut dire, là. Tous les phénomènes où c'est pas le bon son qui est employé. Par exemple, on disait souvent avant, j'y vais jamais, au lieu de jamais. Mmh. Voyez-vous, j'achète des billets, il y a des billets, ça disparaît. Mmh. On prononçait dans certaines régions Harl, la rue Saint-Han, l'espèce d'aspiration qui vient de la Saint-Onge d'ailleurs, ça c'est pas standard, on l'évite. On disait moi, toi, mon père, ma mère. Voyez-vous, tous ces traits qu'on peut rattacher à leur taux épi, là, on veut dire le fait qu'on emploie la simple correction qui est facile en fait. Ça, ces traits-là ne font plus partie du Québécois standard et ça fait partie des familles, fait partie de certains usages. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair pour moi que ces traits-là disparaissent. Donc, il y a un alignement sur le français de ce point de vue-là. Tout ce qui est trop ancien, on l'enlève. Mais on garde quelques traits quand on dit ceux-là, c'est nous. On peut pas me faire dire le dit. C'est impossible. Ce serait... Collectivement, c'est impossible
même en
de penser. Il y a un collègue de Montréal qui a montré que dans certains contextes, on pourrait avoir un dé en chantant, par exemple. Mm-hmm. Puis des fois, oui, ça arrive, mais disons que comme tendance générale, c'est assimilé. Du point de vue du lexique, il y a eu une très grande évolution vers le français de France. Ça, il n'y a aucun doute aussi. Mm-hmm. Le lexique est beaucoup rajeuni, notamment toutes les terminologies. C'est surtout là où il y avait un très grand problème. Vous savez, la variante canadienne de l'époque, début du régime anglais, elle s'est bien maintenue, mais c'est pas enrichi du point de vue des terminologies. Elle n'a pas pu suivre l'évolution de la technologie parce que ça s'est passé en anglais. Donc, on a ciblé les mots anglais, puis là, on essaie de lutter contre. Alors, depuis 40 ans, il y a eu un très grand progrès. Moi, je pouvais pas nommer les pièces de la voiture quand j'étais petit en français. Je les connaissais pas. Je les ai appris en anglais. Mmh. Mais avec un anglais, veut dire les adapter, parce qu'on adaptait les mots anglais. Mmh. Le jet windshield, les capes de roue, le hood, voyez-vous, le steering, le volant. Je disais tout ça en anglais. et anglais américain, là, dire le mot américain.
Ouais.
Alors maintenant, mes enfants, je regarde, bon, j'ai un fils qui a 27 ans aujourd'hui, il connaît ces mots-là parce qu'il parle l'anglais, mais je veux dire, il parle du tout en français, il a jamais appris ça en anglais quand il était petit, c'était tout en français. Donc il y a eu beaucoup de changements. Mmh. Alors moi, quand on parle, certains ici alarmistes nous disent le français québécois est en danger, on ne sait plus lire, on ne sait plus écrire, mmh. En public maintenant on se néglige. Bon, je dis écoutez, c'est pas un problème québécois, c'est un problème français, c'est un problème anglais, c'est un problème américain, c'est un autre problème. C'est pas lié à notre évolution sociale nous-mêmes, mmh. C'est lié à autre chose. Vous voyez? Les Québécois sont capables de parler aujourd'hui en public alors qu'il y a 40 ans, ils ne pouvaient pas le faire. Mmh. Ça c'est clair. Maintenant, l'autre aspect, beaucoup plus dangereux, l'aspect politique. Nous avons toujours résisté très fortement à l'influence anglaise. Et dès qu'on disait le mot anglais, moi quand j'étais petit, boum, la vigueur revenait, on était prêt à se battre. Il n'y a pas question qu'on se fasse envahir par l'anglais. Voyez-vous? Alors, cette ferveur-là demeure un peu, mais compte tenu que la vague nationaliste avait été associée à cette lutte contre l'anglais, et comme cette vague nationaliste s'attiédit un peu, je demande un peu, qu'est-ce qui va supporter l'effort, la motivation contre l'anglais. Mm-hmm. Il y avait anciennement cet effort nationaliste, mais il y avait aussi la religion, qui était un facteur très important. Mm-hmm. Il y avait la natalité qui était importante, qui était un bon support pour le phénomène français. Mm-hmm. Natalité, vous savez comme moi, c'est nul, sinon négatif au Québec mm-hmm. actuellement. La religion, on n'en parlera pas, n'existe plus. On est en train de vendre des églises. Alors, qu'est-ce qui reste? Ça va être quoi notre motivation? C'est ça qui m'inquiète. Je me dis, les Québécois, comme mes enfants, je pense, sont attachés à la langue française, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Alors que moi, je savais à mon époque, quand j'étais petit, mm-hmm. mais c'était la langue de notre religion, c'était la langue de toute la population, il n'y avait pas d'immigrants ici, il y avait... maintenant mm-hmm. les immigrants viennent, ils veulent passer à l'anglais. Voyez-vous, mm-hmm. dans ce contexte-là, je trouve qu'il y a quelques dangers qui s'annoncent, et surtout le principal danger peut-être, qui est plus sournois, c'est que l'anglais maintenant, c'est plus le voisin qui menace. Ça vient de n'importe où dans le monde. Ça vient de l'Australie, ça vient même de France, ça vient de partout. L'anglais nous envahit par la mondialisation, nous rentre à travers nos ports. Un jour, mon appareil, puis tout est anglais. Voyez, je m'en vais me promener sur les sites Internet, les plus intéressants sont en anglais. Alors, voyez-vous, là, on est comme attaqué dans plein cœur. Puis la France, voyez-vous, vous savez comme moi, vous êtes aussi en situation difficile du point de vue culturel. Je pense pas que dans l'homme de la rue ou le citoyen moyen se sent attaqué par l'anglais, mais je pense qu'il sent certainement le danger de... Non, je répondrai pas. J'ai un répondeur sur la page.
Oui, ça c'est vrai. La France, on est... Et on a une tendance normative très ancienne que dénonçait Martinet, je crois qu'il a raison, qui fait que plutôt que des créations autochtones, on a souvent tendance à emprunter les mots. Oui. Et ça, c'est terrible.
C'est ça. Et alors nous, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voulait tellement que nous voir parler comme les Français, on nous reprochait les créations pour dire que vous devriez prendre les mêmes mots qu'en France. Puis quand ils ont un angliciste, prenez leur angliciste. Alors ça, c'est sûr que nous, il n'y a pas un Québécois qui accepte ça.
On ne peut pas accepter.
Alors, je vous donne un exemple, je crois, dans mon exposé du mot, quand c'est venu le temps de désigner les chaussures de sport. Il y avait ici, chaussures de sport, c'est une réalité qui est arrivée au Québec avant la France. C'était à cause des Américains, tout ça. Bon, au départ, c'est mot anglais. On avait un mot américain, une marque de commerce, c'était Choupac. On l'a adapté en québécois en chouclac. Parce que le mot claque existe, il y a une espèce de semelle de caoutchouc qu'on met sous un soulier, là, sous une chaussure, pour le protéger. Donc, il y avait Choupac, chouclac. On avait ensuite sneakers, puis on avait running shoes. Alors, ces trois mots-là, c'est les trois mots qu'on disait au Québec pour... Et là, dans les années 30, déjà, les gens, les éducateurs ont dit, mais écoutez, il faut quand même un mot français. Alors, ils sont allés voir dans les dictionnaires de France, puis ils ont pris le mot espadrille. Ils ont dit, voilà le mot qu'on va dire. C'est le mot français. Bon, ils n'avaient pas tout à fait compris le sens du mot espadrille, parce qu'en France, c'est pas une chaussure de sport, mais ça n'existait pas en France à l'époque. Mm-hmm. Alors, ils ont pris ce qui était le plus près. Mm-hmm. Alors, viennent les années 50. Alors là, 50-60, alors là, les Français, maintenant, vont connaître ces chaussures-là, ils vont prendre le mot anglais. Basket. Tennis. Et ensuite, tennis. Alors là, si on se dit, ben nous, les gens, on dit, ben ça y est, les Français ont choisi un mot. On se dit, mais nous, on n'en veut pas, on veut pas avoir des mots anglais. Donc, il n'y a pas question. Mmh. Alors, basket et tennis ne sont pas rentrés ici. On a dit, on va sanctifier espadrille, ça devient le mot. Même si on était conscient à l'époque, ça n'avait pas le même sens qu'en France, on a opté pour espadrille. Donc, tout le monde au Québec dit espadrille maintenant. C'est le mot. On connaît les mots anglais comme chouclac, sneak, running shoes. On ne dit plus ça. Mais on dira pas plus basket ni tennis. Comprenez-vous? Donc, il y a comme une espèce de... Il y a comme une espèce de malaise avec les Français depuis, je dirais au moins depuis les années 1860, que je vois traîner des dénonciations féroces des Français. Ouais. On dit pourquoi les Français emploient des mots anglais? Pourquoi les reporters français qui sont à New York mettent tant de mots anglais dans leurs reportages qui s'adressent à leurs compatriotes de France?
Et alors qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais la plupart du temps.
Ben oui, mais c'est
pas
ça.
Très bien, d'ailleurs.
C'est ça. Alors ça, pour nous, c'est un mystère. Et quand je vais en France, j'ai eu l'occasion des fois d'avoir des émissions à la radio France Inter, etc., notamment avec Mme Henriette Walter. Mme Walter défend farouchement ça en disant « Mais non, il n'y a pas de danger, c'est nous. » Alors j'essaie de se faire comprendre que c'est possible. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que nous, on vous suit pas du tout. D'autre côté, on peut pas comprendre cette l'attitude que vous avez. Et ça nous crée un tort considérable. Mmh. Quand on a décidé, il y a quelques mois, à Charles de Gaulle, qu'on allait passer à l'anglais pour les communications entre les pilotes et la tour de contrôle, vous comme moi, on sait très bien que ça n'a aucune signification concrète. Parce que les gens, de toute façon, ils disent 3 ou 4 mots. Roger, puis etc. Ils ont 3 ou 4 mots, puis ils disent, c'est pas important. Mais c'est une valeur de symbole incroyable pour nous. Mm-hmm. Parce que nous sommes battus pendant 20 ans pour avoir le droit de parler français. Et c'est en français de tous les aéroports du Québec. On peut parler anglais, on peut parler français. Voyez-vous? Et là, les anglophones, évidemment, dès le lendemain de l'annonce, ils ont dit, voyez-vous, les Québécois, c'est des fous. Les Français eux-mêmes reconnaissent qu'il faut prendre l'anglais pour des raisons de sécurité. Voyez-vous, alors c'est ça qui nous gêne. On se dit, les Québécois, des fois, sont assez hargneux contre les Français sur ce point-là. On a beaucoup d'admiration pour les Français, il n'y a aucun doute. Mais en même temps, on dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas imposé le français comme langue de l'euro, la nouvelle monnaie? Les Français avaient le pouvoir de le faire. Nous, on le croit, qu'ils avaient le pouvoir d'imposer la langue française. Et s'ils l'avaient imposé, ben écoutez, c'est notre opinion.
La bataille était perdue.
Oui, peut-être. Mais nous, on voit pas les choses comme ça. On dit, la France est un grand pays. Ça demeure un grand pays pour nous. On s'est dit, les Américains auraient pris le français parce que l'euro, c'est de la monnaie, c'est de l'argent. Ils l'auraient pris. Voyez-vous? Donc, alors, je pense qu'il y a deux opinions. Les Français se disent, mais les Québécois, vous avez bien beau parler. Vous en employez plus que nous, les anglicismes. Et je peux pas dire le contraire. Voyez-vous, on en emploie beaucoup aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Nous, ce sont des anglicismes historiques, des anglicismes, je dirais, de déficience. Il y avait un manque de vocabulaire. On l'a comblé avec l'anglais, qu'on est en train de maintenant de retirer pour remettre les mots français. Mais en France, c'est du luxe. Oui. C'est un enrichissement de la langue, si on peut voir ça comme ça, mais de luxe, inutile. Pourquoi employer tant de mots anglais alors que les mots français sont là?
Tout à fait.
Alors c'est un, et là lors du colloque j'ai eu beaucoup de Français qui sont venus me voir presque plaider pour que je comprenne le point de vue de la France. J'ai dit mon problème c'est pas de comprendre. J'y vais souvent en France, je vais 2 fois par année. Et je sais que vous vous sentez pas en danger, mais vous devez comprendre que vous êtes la lumière là, pour nous. Vous êtes la lumière de la francophonie. Et quand on regarde, on dirait que la lumière a l'air de pas aller. Alors là, les pays africains eux-mêmes, ils se demandent, la France, si la France ne tient pas plus aux Français, pourquoi nous, on regarderait le français comme langue, pourquoi pas l'anglais? Le Rwanda, on sait qu'il y a des raisons particulières. Le Rwanda, le Zaïre, c'est quand même, surtout Zaïre, un immense pays francophone, d'une certaine façon. Mais là, avec Kabila et autres, on passe à l'anglais. Il y a des raisons politiques, j'admets, mais quand même. La France, ça veut dire qu'elle ne s'est pas imposée, elle n'a pas fait peut-être ce qu'il fallait du point de vue diplomatique, du point de vue stratégique pour garder sa... Enfin, nous, ça nous peine de voir ça.
Je le comprends.
On se dit, si la France disparaît comme langue, avec sa langue française, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sera les derniers Gaulois.
C'est bien. Dites, je voulais vous, éventuellement, je vais arrêter
C'est un texte quand même, le contenu, c'est un contenu tout à fait français, évidemment.
Oui.
Et vous, c'est pas seulement, il y a des mots là-dedans que, évidemment, c'est des thèmes qu'on n'aurait pas à traiter. Je parlais de quelque chose, une situation semblable au Québec, serait pas, on parlerait des municipalités, on parlerait pas, tu sais. On a des maires, on a des préfets, c'est pas tout à fait le même vocabulaire.
Tout à fait.
Vous? Donc, c'est contextuellement, c'est pas un texte neutre au départ, puisque du point de vue, en tout cas lexical, de la thématique, il est,